Il y a maintenant, finalement, entente entre les membres de la FIC et le gouvernement du Québec. 66,3% des membres en faveur de l'entente, 75% de participation au vote. On va décortiquer tout ça avec Marc Rangier, qui est ex-directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique. Il est maintenant conseiller stratégique pour Ryan Affaires publiques et il est notre spécialiste en négo et en discussion syndicale. Marc, bon matin.
Hey, salut. Salut l'équipe.
Hey, faisait un petit bout, Marc, on s'ennuyait.
Ben oui, moi aussi. J'avais très hâte de vous retrouver.
Ben là, hey, avec tout un sujet en plus, finalement, après quoi, plus de 500 jours de négo, puis de manifestation, puis de moyens de pression, il y a entente entre la FIC et le gouvernement. Comment, toi, tu vois le 66,3% en faveur des membres pour l'entente?
Ben, bien franchement, puis Jeff m'avait questionné, puis... je lui avais donné une prédiction. Moi, je m'attendais à un peu plus fort que ça,
okay,
compte tenu de l'épuisement des troupes, compte tenu d'une la structure, les délégués avaient recommandé fortement l'entente de principe. Fait que moi, j'avais prédit autour de 75%. À 66%, ça traduit quand même que ça a été une négociation extrêmement difficile, que, évidemment, comme il y a à la fin de course, il y a des mesures de flexibilité. Elles sont davantage encadrées, mais il y en a. Il reste encore des irritants. La notion de temps supplémentaire obligatoire qui n'est pas réglée non plus. Donc, ce résultat-là reflète un résultat un peu qui est en demi-teinte et qui a beaucoup de travail à faire encore. Je sais que dans d'autres ententes, je disais à un moment donné, Moses, que les leaders syndicaux devrait être plus encouragé au terme d'une ronde de négociation, surtout que cette fois-ci, les augmentations de salaire, même du côté de la FIC, sont quand même très intéressantes. Hein. C'est 17,4% comme les autres sur 5 ans, mais il y a aussi des primes. Donc, le salaire est au rendez-vous. Mais dans le cas de la FIC, on sait que c'était vraiment l'enjeu de pouvoir déplacer, de pouvoir utiliser la mobilité au niveau des équipes de soins infirmiers. Fait que ça, c'était un très, très gros enjeu. Mais ça s'est terminé un peu comme on le disait. Hein? Moi, je disais depuis des mois que ça allait finir par une recommandation du conciliateur parce que les partis s'étaient trop peinturés sur cette position-là. Mm-hmm. Mais c'est ce qui est arrivé, là. C'est ce qu'on a vu.
Marc, est-ce qu'il y a une morosité qui s'est installée au sein, justement, du personnel professionnel en santé? Parce que seulement 66% d'approbation, seulement 75% de taux de participation. Moi, je vois un désabusement de la part des travailleurs.
Oui, je suis parfaitement d'accord avec le terme morosité, puis c'est ça qui est le plus dangereux un peu. Et cette morosité-là, je mets un peu la responsabilité là. Les deux parties ont des responsabilités là-dedans. Moi, je l'avais dit depuis le début, puis j'ai eu l'occasion de le dire à la présidente de la FIC à Québec il y a quelques semaines. J'avais été dur avec elle dans certains de mes commentaires ou de mes chroniques parce que je trouvais qu'elle faisait trop de déclarations publiques. Mm-hmm. Et quand on dit qu'on n'en veut pas de flexibilité, mais qu'on sait que la finale va finir avec une partie de flexibilité, veut pas, il faut être prudent dans les déclarations. Fait que ça, je l'avais mentionné. Mais du côté du gouvernement, j'ai trouvé... un moment donné, il y a eu... on a entendu certains analystes qui tentaient vraiment de planter la FIC. Ça, on a vu ça là, au retour de l'été, dans la rentrée parlementaire, justement, mais au mois d'août, ça avait commencé, et de cibler la FIC. Puis le ministre Dubé était tombé un peu dans le piège. Il avait été poussé pour faire des déclarations, puis il avait fini par attaquer la direction syndicale, la FIC. C'est jamais porteur, ça. Le ministre Dubé, il a déjà une grande réforme sur les bras. Et il sait que si tu attaques le leadership syndical, tu attaques aussi les troupes et le moral des troupes. Fait que je reviens à ton observation, Jeff. Morosité, il faut faire attention. Tu as besoin d'avoir des gens qui sont mobilisés, qui sont motivés. C'était légitime d'avoir des objectifs de mobilité. Mais il faut pas tomber dans le panneau de pointer du doigt. Et cette guerre-là, sur la place publique, de tenter de dénigrer, ça sert pas personne. C'est pour ça que je vous ai dit souvent, mm-hmm, moi, j'ai toute ma carrière, j'ai été un partisan de faire attention au niveau des déclarations publiques,
ouais,
pour justement se laisser des portes de sortie. Fait que la morosité, les partis en portent une partie de responsabilité, mais le gouvernement aussi. Puis j'entendais depuis hier encore, là, puis c'est populaire, à chaque fois qu'il y a un règlement, il y en a qui veulent canaliser Sonia Lebel. moi, je ne la canoniserais pas. Là. C'est pas qu'elle n'est pas compétente, elle est très compétente. Là. Mais cette façon de négocier-là, à chaque fois qu'il y avait des dépôts du côté du gouvernement, c'est des principes qui déposent sur une table. Vous savez que des principes, on peut en jaser pour l'éternité. Là. Jamais de règles claires, de balises claires. Et là, le conciliateur, ce qu'il est venu faire, lui, parce que je vais mentionner sa recommandation, il va en mettre des balises. Il faut qu'il mette des balises. Ça ne peut pas être un chèque en blanc à la mobilité de personnel, parce que le personnel infirmier, la question d'équipe de travail est importante. Puis si à un moment donné, je vais résumer ça, mais si t'es écœurs trop à les déplacer dans tous les sens sur différents sites, à un moment donné, ils vont changer de vocation, point à la ligne, ou ils vont s'en aller dans le secteur privé. Fait que lui, le conciliateur, il est venu mettre ces balises-là, mais ça aurait pu être possible depuis longtemps. Ouais. Au lieu de faire des grandes déclarations publiques, au lieu de déposer aux tables de négociation, annonçant en grande pompe 24 heures d'avance que le Conseil du Trésor va faire un grand dépôt, puis que là, tu te ramasses avec une page et demie de texte qui sont des principes, qui n'ont pas de contenu. Moi, en négociation, j'ai toujours dit, on va parler de textes qui donnent des résultats, de textes qui veulent, dans la vraie vie, dire quelque chose. Fait que ça, la morale de l'histoire, si on veut éviter de prolonger cette morosité-là, un, il ne faut pas que le gouvernement abuse de la mobilité de personnel. Puis deux, revoir au plus sacrant la façon de négocier. Puis le conciliateur, moi, ce que je dis, il doit être là dès le départ des dépôts des partis. Dans le secteur public, il ne faut plus négocier de la même façon. Le cadre légal devrait être revu pour qu'il y ait plus de mordants, le conciliateur, qui soit en mesure d'intervenir plus rapidement avec la possibilité à tout moment de convoquer les partis, mais qu'ils soient là à toutes les phases de la négociation pour s'assurer qu'il y a du mouvement, pour s'assurer qu'à un moment donné, il n'y ait pas de dérapage public, puis que les partis se concentrent sur les vraies affaires à table de négociation.
Hey Marc, c'est peut-être le fan de sport en moi qui aime bien regarder ou analyser le travail qui a été fait versus le résultat. Puis c'est un peu de même que je regarde cette situation-là. On l'a dit tantôt, là, au-dessus de 500 jours de moyenne pression, puis négo, puis d'essayer d'arriver à cette entente-là. Est-ce que ça a valu le coup quand on regarde le résultat, tout ce temps-là qu'on a passé, entre autres, à la table, ou en train de piqueter, ou manifester, ou mettre des moyens de pression? Est-ce que ça a valu le coup? Et est-ce qu'on devrait analyser cette situation-là, de cette façon-là?
C'est une bonne approche, parce que je suis obligé de te dire que je trouve que ça valait pas le coup.
Okay.
Dans le sens que quand on regarde les résultats, tu sais, le temps supplémentaire obligatoire, la résultante, c'est que c'est un énoncé de principe. Hein?
Ouais.
L'employeur prend les moyens pour éviter de faire appel au temps supplémentaire obligatoire. Le temps supplémentaire obligatoire n'est exigé que dans les situations d'urgence et exceptionnelles qui se présentent. Moi, je pensais que c'était déjà le cas, tu sais. Après ça, les ratios. Il y a une période de 5 ans pour établir des ratios. Donc, ça va venir de façon graduelle, mais sans nécessairement de ce que je peux lire, en tout cas. J'ai pas le texte final, mais obligation de résultat. La mobilité de personnel, il y a beaucoup de balises, mais elle va être très possible. Ça a été ajouté. Mais c'est un peu des... Quand tu négocies à tête reposée, plus, tu sais, là, ça a pris plus de 500 jours. Si tu le fais derrière des portes closes, tu es capable de discuter des vraies affaires plus rapidement. Je vous avais déjà dit, ce qui est frustrant avec le Conseil du Trésor, c'est pas parce que je veux leur mettre le blâme sur le dos, mais il y a une façon de négocier qui n'a pas changé depuis trop longtemps. Donc, d'y aller tranquillement avec des mandats politiques. La différence avec le privé, c'est que dans le public, les mandats sont politiques. Et les mandats politiques, des fois, ça évolue au gré des sondages un peu, hein, au gré des... Fait que ça aussi, c'est pour ça que moi, je disais qu'il faudrait qu'un conciliateur soit là plus tôt. Mais répondre à ta question, non, ça n'a pas valu le coup. Parce que quand tu regardes que le constat, c'est qu'il y a de la morosité. Et donc, une entente, là, t'es supposé sortir de là avec la satisfaction, un équilibre, puis faire en sorte que tu... Là, pour les prochains 5 ans, là, on passe à un autre appel, puis on est motivé. Fait que c'est pour ça que je suis obligé de dire qu'on voit qu'il y a un problème dans la façon de faire les choses.
Pour rester un peu dans la même veine du oui. Conseil du Trésor et de Sonia Lebel du même coup, on parle beaucoup d'avant l'entente, des négociations et tout ça, mais hier, après l'entente, Sonia Lebel qui sort en disant que l'entente rend le réseau public plus attrayant pour le personnel du privé qui souhaite revenir. Pourquoi cette sortie-là alors qu'on a un taux d'approbation de seulement 66% puis parmi le 66%, il y en a peut-être bien qui ont voté oui juste pour dire « OK, là, ça va être fini puis on va passer à autre chose. » Pourquoi dire que le réseau public redevient plus attrayant pour le privé quand on n'est pas sûr que c'est vrai?
Non, mais c'est ça. C'est un bel exemple que c'est des paroles, là. Mais il faut que tu regardes dans le résultat. Moi, pour moi, ce qui aurait pu être efficace, c'est des déclarations communes. Hein. Moi, j'étais à l'école que quand tu termines une négociation, tu parles avec ton vis-à-vis, puis dans le fond, on fait une déclaration commune pour montrer notre niveau de satisfaction face à un équilibre qui a été atteint. Puis ça peut faire en sorte d'être attractif. Parce que là, les gens, quelqu'un qui veut être attiré pour aller travailler dans un milieu, tu sais, ça crée une espèce d'atmosphère qui est positive. Ces déclarations-là, il faut toujours faire attention à comment on les fait. Puis surtout, on sait là, que le gouvernement le sait que la question de la mobilité, même s'il y a des balises, ça irrite encore beaucoup les membres, les infirmières. Fait qu'il faut que tu fasses attention dans la façon que tu vas l'amener, dans la façon que tu vas l'utiliser. Puis pour ce qui est du privé, qui va être plus attractif pour amener des infirmières dans le réseau, ben dans l'entente, il y a la même disposition qu'il y avait pour ce qui a été convenu il y a plusieurs mois. Hein? Ça a été convenu avec les autres groupes il y a plusieurs mois, une reconnaissance d'ancienneté pour du personnel d'agence, là, au 13 mars 2020, là, ce que je vois dans l'entente. Mais ça avait été conclu avec les autres syndicats aussi. Donc, il n'y a rien de nouveau, là. Rien de nouveau. Fait que c'est une déclaration politique. Puis, je dis pas de mauvaise intention quand t'as fait ça. Mm-hmm. Mais c'est comme en éducation, on l'a vu, là, au sortir des ententes, qu'il y avait aussi de la morosité. T'as pas atteint tes objectifs quand t'as ce climat-là. Ce qui est une bonne nouvelle, puis c'est pour ça que là, les syndicats, avec le gouvernement, ce qu'ils devraient tenir comme discours aussi, il y a quand même des bons aménagements au niveau de la rémunération qui, à mon avis, va être très attractive. Puis ça, si tu mises sur le moyen, le plus long terme, mais ça, c'est intéressant aussi. Mais les conditions de pratique, c'est ça qui doit, je pense, qui doit être regardé par les parties. Là, c'est pas parce que c'est réglé qu'il faut plus en parler. Moi, je pense qu'il faut vraiment que la FIC et le gouvernement se disent, OK, on sait qu'on a encore un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ce qu'on a négocié, puis ce qui a été proposé par le conciliateur, se soit mis en place intelligemment. Pas abuser du pouvoir de la mobilité, parce qu'on pourrait se ramasser dans 2-3 ans, constater qu'il y a eu des milliers de départs d'infirmières dans le réseau public vers le privé, parce que il y a beaucoup d'opérations qui se font au privé. Là. C'est pas parce que on veut enlever des infirmières dans des agences qu'il n'y aura plus d'infirmières qui vont aller vers le privé. Les cliniques privées et les blocs opératoires privés poussent comme des champignons au Québec, là, actuellement. Fait qu'on a toujours cette pression-là qui va être là.
Marc, en terminant, je te pose la même question que je t'avais posée à la fin des négociations entre le gouvernement et la FAE. Je t'avais parlé de Mélanie Hubert, puis je t'avais dit, est-ce que c'est encore la personne clé pour la FAE? Puis tu m'as dit, pas certain après ces négociations-là. Est-ce que Julie Bouchard est celle qui va être capable, justement, d'amener la FIC à un autre niveau?
Écoute, je me défilerai pas pour ta question. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, là, puis j'ai eu l'occasion de lui parler début septembre pour la rentrée parlementaire. Mais je vais répondre franchement, je suis loin d'être certain qu'elle va rester en poste éventuellement. Mm-hmm. Je pense que elle ne quittera pas d'elle-même, mais je pense qu'au prochain congrès, il pourrait y avoir des changements de ce côté-là, ne serait-ce que par rapport au climat de morosité qui en ressort. Fait que c'est pas un blâme que je lui fais, mais je veux pas me défiler pour ta question. Moi, je pense pas qu'elle va rester en poste pour le prochain congrès.
Marc, je te laisse avec un texto qu'on a eu. Je vais regarder le nom de la personne, ben, anonyme, mais je te lis quand même le texto. « Salut les gars, je suis Nalo et c'est notre dernière convention avec la FIC et je vous confirme que j'ai voté oui juste pour que ça finisse. Je suis temps partiel, il n'y avait rien pour nous. Le gouvernement se fout de la conciliation travail-famille et nous n'aurions rien eu de plus si nous avions voté non. » En quelques mots, qu'est-ce que tu répliques à ce commentaire-là?
Les deux parties, ce commentaire-là Mme Lebel, M. Dubé devraient le savoir comme un signal d'alarme du côté du syndicat aussi pour dire, là, on change de ton au plus sacré, on retrousse nos manches, puis on fait en sorte que on tienne un discours qui soit davantage attractif, puis on s'arrange pour que ce soit appliqué intelligemment sur le terrain, cette convention-là.
Génial. Marc Rangier, conseiller stratégique pour Ryan Affaires publiques, c'est notre spécialiste en négociation et en situation syndicale, et c'est toujours un immense plaisir de jaser avec lui. Marc, merci infiniment pour ton temps, puis je te souhaite un magnifique week-end.
Hey, merci à tous vous autres. Salut.
Salut, à bientôt, Marc. Toujours très intéressant d'analyser ces situations-là avec Marc Rangier.
Il est tellement bon, ouais. Il a tellement été sur le terrain, puis c'est très pertinent, ses interventions. Alors, je retiens que Julie Bouchard est en danger, puis qu'on ne peut pas vanter Mme Lebel pour ces négociations-là qui ont duré plus de 500 jours. Qui se termine dans morosité.
Continuez à nous écrire. Je le sais qu'il y a énormément de gens qui nous écoutent, qui travaillent dans le domaine de la santé. Là, comment vous avez vécu ça? Comment vous voyez ça? Comment vous voyez l'avenir et la suite des choses maintenant que l'entente a été acceptée? 88-971-1021. Nous, on fait une courte pause à 8h05. Après la pause, eh bien, la reine de la NSPW, Lou O'Farrell, sera avec nous et on va jaser parce qu'on est le mois d'octobre. Puis l'Halloween s'en vient, on va jaser de fantômes. Oh. Et ce sera aussi l'ultime combat des tounes. Bon vendredi. Red.